Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Nous avons laissé Jacques Cartier lors de ses retrouvailles avec le chef Donnacona. Aidé de ses interprètes, les deux jeunes Indiens qu'il avait emmenés en France lors de sa première expédition, le capitaine Malouin demande au chef Iroquois des indications pour pouvoir gagner le Nord. Peine perdue. Donnacona sait trop le profit qu'il peut tirer des nouveaux arrivants pour accepter de les mettre en contact avec d'autres tribus. Seconde partie, promesse déçue. Le site que Cartier voudrait gagner, nommé Hochelaga, semble plein de promesses. Mais les interprètes, voyant la détermination du capitaine, s'emportent. Aller vers le nord, c'est se condamner à une catastrophe certaine. La mer est très mauvaise là-bas. Et puis la terre de Hochelaga est stérile. Elle n'apportera aucun bénéfice à personne. Quant au climat, il est si rude qu'aucun Français ne pourra subsister une journée. Donnacona semble embarrassé. Pour détendre l'atmosphère, il demande une faveur à Cartier. Faire tonner ces étranges tubes de métal que les voyageurs appellent des bombardes. Le capitaine accepte avec joie, d'autant qu'il espère, en semant la panique, avoir raison d'éventuelles manifestations d'inimitié venant de la tribu.
Les canons tonnèrent, portant la terreur chez les pauvres sauvages qui, croyant que le ciel leur tombait sur la tête, se mirent à hurler de toute leur force. Ainsi, le pauvre Donnacona, épouvanté par ces mugissements du canon, avait bien raison d'être terrifié par le bruit de cette artillerie, qui proclamait de manière à ne pas s'y méprendre que son règne sur cette terre de ses ancêtres allait bientôt finir.
Pourtant, Donnacona n'en démord pas. Il est toujours profondément hostile à l'idée de voir Cartier et ses bateaux partir pour Hochelaga. En désespoir de cause, il organise une mise en scène censée épouvanter les Français en leur donnant la certitude que les dieux sont opposés à leur projet. Le 18 septembre 1535 au matin, alors que tout le monde dort, les hommes de la tribu déguisent trois des leurs en diable, en somme. On les revêt de peaux de chien, on les coiffe de cornes gigantesques. Il s'agit de prouver à leurs visiteurs que le dieu Kudrani, irrité d'avoir été détrôné par les chrétiens, s'est mis en tête d'emporter les Français dans les profondeurs de l'enfer. On embarque les trois créatures sur des canots, puis étant parvenues près du vaisseau des Français, elles se dressent soudain et profère des paroles incompréhensibles dont le caractère belliqueux est cependant évident. Hélas, l'épouvante n'est pas au rendez-vous. Les hommes d'équipage qui se sont rassemblés sur le pont pour assister à cette étrange scène de carnaval rient à en perdre le souffle. Donnacona, debout sur le rivage, est sidéré. Un matelot s'exclame.
« Ton Kudrani est un imbécile, doublé d'un idiot !»
Parole immédiatement traduite, qui achève de semer la désillusion parmi les guerriers iroquois. De fait, Cartier reprend la mer le 19 septembre, non sans avoir dû laisser cette fois à Donnacona ses deux fils, dont Donnacona n'a pas accepté qu'ils partent à nouveau. Avec eux, malheureusement, Cartier perd deux précieux interprètes. Depuis la Grande Hermine, les hommes d'équipage découvrent des rivages prometteurs. Les terres ici sont enchanteresses, variétés d'arbres à l'infini, fleurs, fruits. Sur de longues étendues, la vigne pousse à profusion. On se régale de noisettes et de raisins. C'est donc ça le rivage inhospitalier annoncé par Donnacona ? Au fil des jours, on rencontre de nouvelles tribus. Un chef, soucieux de marquer ses intentions pacifiques, fait cadeau à Cartier d'une fillette de 8 ans et d'un garçon de 4 ans. Cartier refuse le petit beaucoup trop jeune, mais il garde la fille près de lui en vue d'en faire une interprète. De nouveaux animaux apparaissent. On découvre des rats sauvages qui vivent dans l'eau. De fait, ragondins et castors y pullulent. Le 2 octobre, on est enfin parvenu à la fameuse terre d'Hochelaga. Les Français sont accueillis par un millier d'Indiens qui montrent force marque d'amitié. L'enthousiasme et la générosité sont au rendez-vous. On apporte à l'équipage des visiteurs des poissons, du pain fait de maïs que les Européens connaissent et appellent blé d'Inde. On entreprend de débarquer. Sitôt à terre, les femmes de la tribu se jettent sur les matelots, leur prodiguant caresses, toutes sortes de marques d'affection. Puis on conduit l'équipage dans le village voisin.
La bourgade est de forme circulaire, entourée d'une triple rangée de palissades. Celle du milieu est construite avec de grosses pièces de bois plantées droites. Les deux palissades, à l'extérieur et à l'intérieur, inclinées l'une vers l'autre, se rencontrent à leur sommet, donnant à cette structure l'apparence d'une pyramide.
Cartier et ses hommes sont présentés au chef. C'est un homme d'une cinquantaine d'années. Vêtu comme les autres hommes de la tribu, il est en outre coiffé d'une sorte de lisière rouge faite de poils de porc-épic. Aussitôt, le chef montre à Cartier des plaies qui couvrent ses membres. Et par des signes, il le supplie de les lui toucher. Sans hésitation, le capitaine consent à lui toucher, à lui frotter bras et jambes. Le chef, bouleversé, se défait de sa couronne et enceint le front de Jacques Cartier. Le capitaine malouin se trouve ainsi paré des attributs d'un chef iroquois. À la suite du chef, toute la tribu vient recevoir de Cartier les frictions magiques dont on ne doute pas un seul instant qu'elles guériront tous les maux. Les manifestations d'hospitalité se multiplient. On se fait de grands serments d'amitié. Jacques Cartier, comme à son habitude, décide de raconter l'Évangile à ses hôtes. Lecture de la Bible, énonciation des principaux dogmes, les Indiens, assis en tailleur autour du capitaine, écoutent religieusement. À la fin de la lecture, Cartier fait distribuer des cadeaux à chacun, puis fait sonner les trompettes qui achèvent d'opérer le charme. Alors que Jacques Cartier décide de quitter ce rivage pourtant si amical, le chef l'enjoint d'aller plus loin dans les terres. « Mais pourquoi donc ? Parce que, lui dit-il, c'est une terre extraordinairement fertile. » Cartier, malgré son désir de partir, accepte de gagner cette nouvelle terre promise.
Nous découvrîmes une grande montagne bien labourée et fort fertile. Nous nommâmes cette montagne le Mont Royal.
Ainsi naît, en cet automne 1535, la ville de Montréal.
Arrivé au sommet de la montagne, Cartier embrasse du regard le fleuve Saint-Laurent et distingue aisément les rapides dits de Lachine. Les guides sauvages lui disent qu'il y a trois sauts semblables en amont de la rivière et qu'une fois franchi, on peut naviguer 3 mois sans rencontrer un obstacle. Il lui montre aussi la rivière Ottawa.
Alors qu'il est résolu à quitter l'endroit, le guide iroquois qui accompagne Cartier, sans qu'il n'ait rien demandé, de la chaîne du sifflet qui est au cou du capitaine et du poignard à manche de laiton qui est à son côté. Avec ce même poignard, il indique la direction du fleuve. Que veut-il dire ? Que l'or et l'argent se trouveraient dans cette direction ? Cela attendra car l'heure est au retour. On reprend la navigation et quelques jours plus tard, Cartier et ses hommes retrouvent une fois encore la tribu de Donnacona. Le chef les accueille avec chaleur. On prend le temps de s'installer pour faire le point des connaissances acquises. Donnacona fait découvrir aux matelots français l'usage d'une plante inconnue, le tabac.
Ils ont une herbe qu'ils font sécher au soleil et la portent à leur col en une petite peau de bête au lieu de sac. Puis à toute heure, font poudre de ladite herbe et, le mettant à l'un des bouts du dit cornet, mettent un charbon de feu dessus et soufflent par l'autre bout tant qu'ils emplissent leur corps de fumée, tellement que leur sort par la bouche et les nasilles comme par tuyaux de cheminée.
Autre réalité plus cruelle de ce nouveau monde, Cartier découvre aussi ses premiers scalps. Tandis qu'on explorait le Saint-Laurent, laissant à quelques hommes sur place le soin de construire un fortin, on n'a pas vu venir l'hiver. La vie était si douce. Mais dès les premiers jours de décembre, les glaces se referment sur les navires. Plus question de revenir en France avant le dégel. C'est le premier hivernage connu des Français au Canada. Avec le froid, survient la maladie. Une épidémie de scorbut se déclare, dévastant l'équipage. En désespoir de cause, Cartier organise une veillée de prière. On accroche une représentation de la Vierge Marie sur un arbre. Les hommes valides et les mourants se traînent à la procession. C'est alors que survient ce que l'on va considérer à l'époque comme un vrai miracle, un miracle qui n'est dû qu'à la perspicacité de Cartier. Il a remarqué que les Indiens, quoique touchés par le mal, en ont guéri. L'un d'entre eux explique qu'ils ont en effet un remède. On présente au capitaine une infusion faite de feuilles d'une sorte de sapin baumier que les Indiens appellent améda. Le suc de ces feuilles semble avoir raison du scorbut. De fait, c'est bien un miracle. 6 jours plus tard, tous sont guéris. L'hiver passe. Le dégel tant attendu survient. Mais la petite Hermine, vidée de son équipage décimé par le scorbut, n'a plus personne pour la gouverner. On décide de l'abandonner là. Ensevelie dans la vase pendant 3 siècles, elle sera retrouvée en 1843. Le samedi 6 mai 1536, les 2 navires restants lèvent l'ancre. Cartier, suivant une décision qui entache sa réputation d'homme juste, fait enlever plusieurs Indiens dans le but de les ramener en France. Parmi eux, Donnacona. Le vieux chef obtient pourtant la promesse du capitaine de revenir sur sa terre avant 12 lunes. Et comme il faut accompagner sa promesse de présent, on offre au chef 2 poils à frire qui paraissent le consoler de son chagrin. De retour à Saint-Malo en juillet 1536, Cartier croit avoir exploré une partie de la côte orientale de l'Asie et obtient d'organiser une 3e expédition, dont pour des raisons financières, il n'aura pas le commandement. Au cours de cette ultime expédition, qui va se dérouler de 1541 à 1542, les Indiens ont désormais compris quelles sont les richesses que leurs visiteurs recherchent à tout prix. Ils leur rapportent des diamants et de l'argent et leur montrent où en trouver à foison. Ça y est, voici la fortune promise, on a trouvé le filon. Les Espagnols n'ont qu'à bien se tenir. Cette fois, c'est un triomphe, on va rapporter en France ces monceaux de pierres précieuses promises au roi. Hélas, ces trésors ne résistent pas longtemps à l'examen. Les pépites d'argent sont en fait des cristaux de pyrite et les diamants des cristaux de quartz. Le tout n'a aucune valeur. Cette mésaventure est à l'origine de l'expression « faux comme des diamants du Canada » et du toponyme actuel de « cap diamant » pour désigner l'extrémité est du promontoire de Québec. Après l'expédition décevante de 1542 dans ce Canada dont la seule vraie richesse semble être les fourrures, Jacques Cartier va mener une vie retirée du monde. Il était déjà connu pour son caractère peu démonstratif. Il ne semble pas avoir accordé une importance particulière à son destin et à son entrée dans la postérité. Pourtant, si l'on accepte ce jour où il décida de ramener des Indiens de force jusqu'en France, son attitude paraît plus haute en noblesse que celle d'un Cortés ou d'un Pissarro qui ont rivalisé de ruse et de cynisme en de nombreux moments de leur vie de conquérant. De fait, les Iroquois garderont plutôt un souvenir éclairé de ces hommes venus d'ailleurs qui, sans aucune volonté de leur voler leur terre, ne cherchaient qu'à trouver un passage dans les glaces, un passage qui en fait n'existait pas, pour trouver un autre monde qui restait encore à découvrir. C'est la fin de ce double épisode consacré à la découverte du Canada par Jacques Cartier, le marin malouin. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est de Xavier Joly. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À très bientôt.